La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est l'écrivain Gilles Paris pour Le bal des cendres, un roman publié chez Plon. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors c'est un très beau roman. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du best-seller Autobiographie d'une courgette qui a fait l'objet d'un film qui a obtenu un César. Alors dans ce nouveau roman, Gilles Paris, vous nous emmenez sur une île italienne dont on parle assez peu, l'île Stromboli. Plusieurs personnages prennent la parole à tour de rôle. La première à parler est Giulia, une adolescente qui vit avec son père dans l'hôtel qu'il dirige avec son ami Matteo. Le livre est né à la suite de vos voyages sur cette île. Une île qui a continué à vous habiter, je crois, pendant près de 4 ans, puisqu'il a fallu tout ce temps pour mûrir le roman. Racontez-nous d'abord cette rencontre avec un territoire qui est encore très secret et que les Français connaissent mal.
Je crois que j'y suis passé la première fois, en fait, une après-midi, quand on fait des escales comme ça sur les îles italiennes. Et j'avais été très frappé par la luminosité de l'île. Et puis ce côté assez authentique, c'est une île de pêcheurs, hein. C'est une île qui est absolument envahie l'été par les touristes. C'est pas une île où on se prélasse, c'est pas une île où on vient passer 15 jours. On y passe généralement 2-3 jours, on vient escalader le volcan, surtout, qui est très imposant, qu'on voit aussi bien en arrivant de Palerme que de Naples ou d'autres endroits. On ne voit que lui en arrivant. Et d'ailleurs, quand on se promène dans Stromboli, qui est une assez grande île, assez étalée, quel que soit le restaurant où l'on s'assoit, quelle que soit la ruelle qu'on prend, le volcan est toujours là, il est omniprésent, à tel point d'ailleurs que les habitants de Stromboli l'appellent Idu, qui veut dire lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont réellement personnalisé, comme tous les gens qui habitent d'ailleurs dans des îles volcaniques. Ils se sont habitués au volcan. Il faut savoir que le volcan de Stromboli éructe littéralement toutes les 5 minutes. Il y a un filet de fumée qui s'en échappe et qui a eu plusieurs catastrophes déjà sur l'île dans le temps passé, en l'an 2000, notamment un tsunami qui a ravagé l'île. Et dans les années 30, 1930, un énorme pan de montagne qui s'est écroulé dans la mer et qui a provoqué la colère des dieux, en quelque sorte, la colère du tsunami, la colère du volcan en l'occurrence. Et moi, c'est une île que j'aime parce que je la trouve, je suis un habitué des îles italiennes et je trouve que Stromboli est à part parce que c'est une île qui se mérite. Elle est âpre, elle est rude, elle est enchanteresse quand vous vous promenez dans les sentiers qui l'abordent, elle est âpre quand vous montez le volcan. Et au fond, cette idée de passage dans cette île qui, l'hiver, ne contient que 300 habitants, et l'été, on peut les compter par milliers, par centaines de milliers même d'ailleurs, ces touristes de passage, il faut savoir que toutes les plages de l'île sont des plages volcaniques au sable noir, et qu'à 1 mètre du bord, vous n'avez plus pied, ce qui veut dire que c'est pas vraiment des plages familiales, on y voit d'ailleurs assez peu d'enfants, on les voit escalader le volcan, et eux, par contre, l'escalade à toute vitesse.
Alors Gilles Paris, les paysages sont extrêmement bien rendus dans votre roman Le bal des cendres. Il y a le miroitement de l'eau, le sable noir que vous venez d'évoquer, les sentiers autour du volcan, la chaleur dès le matin en été. Il y a aussi la vigne qui descend de la pergola de l'hôtel, les oliviers, le rouge et l'orange qui incendient le port le soir. L'un de vos personnages parle, comme vous, de beauté sauvage et aride. Alors, j'ai envie qu'on parle des personnages. Ils prennent la parole tour à tour avec des prénoms qui viennent du monde entier, ce qui est finalement logique puisque nous sommes sur une île touristique. Il y a les résidents étrangers qui habitent l'île, les voyageurs de passage, mais aussi les habitants qui ont passé toute leur vie au pied du volcan. Un roman choral, comme vous les aimez. Chaque voix, chaque personnage nous dévoile ce qui est caché, ces secrets qu'on découvre peu à peu en tournant les pages.
Oui, j'aimais bien cette idée. Toujours, je suis un peu obsédé par l'idée qu'on ne sait jamais ce que les gens pensent, que ce soit notre épouse, notre mari, nos amis, notre entourage. On n'est jamais sûr de leurs pensées. Et les romans chorales permettent au lecteur de rentrer réellement dans la psychologie des personnages. On n'est pas tout à fait ce que l'on montre à l'autre. On est beaucoup plus complexe que ça, finalement, dans nos natures, dans nos petites lâchetés, dans nos mensonges, dans beaucoup de choses. On peut être un peu intimidé par l'autre aussi. Donc, le roman choral permet ça, justement, cette liberté totale. Et puis, c'est une histoire qui se déroule, en effet, avant, pendant et après l'éruption, ce qui va provoquer, en effet, des attitudes, des priorités très différentes selon les personnages du roman.
Gilles Paris, vous êtes romancier. J'imagine que ça n'est pas anodin de situer ces personnages au pied d'un volcan, situé qui plus est sur une île. Le volcan n'est pas qu'un décor, il infuse sur le caractère des personnages.
Oui, je le pense sincèrement. J'ai fait l'escalade de ce volcan pour vraiment pour écrire le roman. J'en ai vraiment bavé, je le dis, ça n'a pas été facile. Mais je l'ai fait parce que c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour ensuite emmener mes personnages sur mes traces, d'une certaine manière, et ressentir les choses. Par exemple, quand j'ai fait l'escalade, à un moment donné, on s'arrête sur un plateau qui est vraiment le toit du volcan. On s'y repose à peu près 45 minutes, et puis on redescend par un autre versant, qui est un versant de sable. C'est un peu comme marcher dans la poudreuse, il faut enfoncer son pied mais pas jusqu'au bout pour pouvoir avancer l'autre, et on fait ressortir beaucoup de caillasses du sol. C'est une descente assez vertigineuse parce qu'elle dure presque une heure et demie. On peut pas s'arrêter parce qu'on peut perdre l'équilibre facilement, et je me suis dit, c'est vraiment là que le volcan doit entrer en éruption, dans un échiquier où les personnages sont piégés et ne peuvent pas courir.
Alors justement, Gilles Paris, le volcan, c'est un peu la synthèse d'Eros et Thanatos. S'il y a la beauté et la mort en même temps, j'aimerais lire un extrait de votre roman qui commence par une belle description du Stromboli, mais qui montre aussi qu'il faut se méfier d'un volcan en activité. Alors c'est Giulia qui parle. « Assis en tailleur, nous observons le volcan s'activer, conscient de notre chance. Ce n'est pas tous les soirs que ses bouches exultent ensemble. » Un concert de flammes en furie, dirigé par un chef d'orchestre qui tarde à surgir du feu. Le vent éolien souffle fort sur les braises et les attise, tandis que le grondement enfle, pareil à un essaim d'abeilles à nos oreilles. Le centre des flammes est presque blanc un court instant, avant de passer à l'orange, puis au rouge, projetant la lave surgie du feu comme des papillons incandescents qui redescendent au sol avant de s'évanouir aussitôt. Un touriste, autrefois, y est descendu, persuadé qu'il passerait entre les bouches éteintes, mais elles se sont réveillées aussi soudainement qu'elles somnolaient, et l'impulsif n'a pas survécu.
C'est un fait divers réel, oui. D'ailleurs, c'est à cause de tout ça qu'ils ont interdit un certain nombre de choses. On n'y dort plus la nuit, on ne s'y promène pas sans guide, c'est interdit littéralement. Et il y a vraiment des conditions à respecter, par rapport à la montagne, par rapport au danger qu'elle peut représenter. C'est une balade sympathique, hein, qu'on fait avec un guide. On est généralement un groupe d'une petite dizaine, pas plus ni moins en général. On peut y aller avec un guide privé, mais c'est assez cher. Et sinon, on y va dans un petit groupe qui est formé, on est habillé littéralement pour escalader la montagne, avec des cahuets, avec des pulls, avec des chaussures de montagne. Certains utilisent même des bâtons de ski. Donc on est vraiment dans l'ascension d'un volcan.
Et quand on est romancier et qu'on place des personnages au pied d'un volcan, on imagine évidemment ce qui se passerait s'il entrait en éruption. Et c'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce que j'ai fait. Il y a eu plusieurs étés récemment où Stromboli est allé jusque-là, justement. Et c'est ce qui menace un peu la planète dans différents endroits sur d'autres terres volcaniques. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, évidemment, c'est ce que j'ai mis en exergue, c'est-à-dire que le volcan n'est pas seulement dans la montagne, il est en chacun de nous. Je crois qu'on est capable aussi, à un moment donné, d'éructer, de sortir un peu de nos gongs. Et ça, c'est un tempérament qui m'intéresse m'intéresse évidemment en tant que romancier et qui est particulièrement facile à manier, justement au moment où l'on se retrouve face au danger. Comme d'habitude, et dans tous mes livres d'ailleurs, c'est pas les drames, c'est pas les épreuves qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Et dans l'histoire du bal des cendres, c'est ce que les personnages vont faire de cette éruption du volcan.
Et Gilles Paris, l'éruption nous ramène à l'essentiel, parce que finalement on est peu de choses face à la nature qui se déchaîne. Il y a même une dimension philosophique, puisque on assiste à la fusion des éléments, l'eau avec cette île entourée par la mer, la terre qui remue, le feu qui jaillit, l'air qui est saturé par les fumées. Et c'est le moment que choisissent certains personnages pour se révéler. Sans dévoiler l'intrigue, on comprend que certaines personnes ne sont pas exactement ce qu'elles prétendent être, et parfois on bascule du côté du roman
obscur.
Policier.
Oui, obscur du roman policier, c'est tout à fait ça. Et je pensais à tout ce qu'on a traversé aussi, à la pandémie, à ce qu'on peut voir en Ukraine actuellement. Et d'ailleurs, il y a d'incroyables témoignages qu'on a pu voir sur ces gens, sur ces femmes qui sortent de maisons ou d'habitations en flammes, qui n'ont plus rien, mais qui sont très calmes, qui sont très posées, parce que elles ont compris que la priorité numéro un, c'était d'être resté en vie quelque part. Et je pense que face au danger, c'est évidemment le genre d'attitude à avoir, même si quelque part on perd beaucoup derrière soi.
Ce qui frappe dans votre livre, c'est non seulement ce volcan, le Stromboli, mais aussi l'atmosphère qui se dégage en tournant les pages. J'y ai retrouvé l'atmosphère du film La Piscine avec Alain Delon et Romy Schneider, mais aussi le talentueux Monsieur Ripley. On est en vacances dans un paysage splendide, mais il y a en même temps quelque chose d'inquiétant qui plane. D'ailleurs, sans dévoiler l'intrigue, il y a la mafia qui n'est pas très loin.
Non, tous les dangers sont possibles et l'idée est aussi d'attraper le lecteur avec des chapitres assez courts. Chaque chapitre se termine évidemment par un paragraphe qui donne envie d'aller au suivant et on est vraiment loin au départ en lisant le livre de s'imaginer à quel point tout l'ordre du roman quelque part sera bouleversé par la psychologie de ces personnages qui ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être comme vous l'avez dit, mais surtout que le volcan va réveiller d'une certaine manière, à les obliger à avoir des actions, et bonnes et mauvaises d'ailleurs, dans le cours du temps et dans le cours de ce roman.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des autres personnages? Je pense notamment à Guillaume, le père, qui boit trop et qui a le sentiment d'être à la dérive. C'est un homme qui a un lourd passé puisqu'il a été militaire chargé de missions très spéciales.
Oui, c'est un homme qui est dans le secret absolu, qui n'a rien dit à sa fille à propos de sa mère. Il lui a pas montré de photos. Elle sait que sa mère est morte à sa naissance, mais c'est tout ce qu'elle sait. Et pour une fille, c'est terrible. Elle est arrivée à 2 ans sur l'île de Stromboli. Elle va souvent sur le Strombolicchio, qui est un peu le col du volcan, où elle se réfugie, où elle pense à sa mère. Et son père, finalement, même quand il repère 2-3 choses, la manière dont elle tient les couverts, par exemple, ou ce potager qu'elle aime installer derrière l'hôtel, c'est exactement ce que faisait sa mère. Mais il ne lui dira pas. C'est un homme qui a vraiment du mal à montrer ses sentiments. Et puis, on va découvrir peu à peu, en effet, qu'il a travaillé pour le gouvernement avec des missions qui l'emmenaient dans des pays en conflit, souvent des pays de terroristes, simplement en déjouant les pièges. Quelques civils en pâtissaient également. Et c'est un homme qui vit dans le cauchemar de ce qu'il a créé lui-même, de ce qu'il a fait avec son ami Matteo. Il n'en est pas très fier. Et en même temps, il est incapable d'en parler et de sortir de lui-même par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui le hante, parce qu'il a probablement, on le devinera à la fin, c'est pas spoiler le roman que de le dire, qu'il a bâti cet hôtel sur de l'argent sale. Et donc, on peut comprendre à quel point cet homme est miné de l'intérieur.
Gilles Paris, votre roman comporte 3 parties qui portent des noms mystérieux. Vous en avez évoqué déjà 2, Strombolicchio, Idou. Et le 3e, c'est Tephras, des termes qu'on comprend en vous écoutant maintenant et puis aussi en lisant le livre. Vous pouvez nous éclairer sur ces 3 noms, ces 3 parties ?
Alors, il fallait qu'elle soit très distincte. Strombolichio, c'est un peu... Alors, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un endroit où on n'a pas le droit de se promener, il appartient à la marine militaire. J'y suis quand même allé. Et puis, bon, pour y aller, faut sauter du bateau. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et nager jusqu'au rocher, les escalader et grimper ces fameuses 200 marches sur cet escalier branlant qui vous emmène au sommet avec une vue absolument imprenable. C'est un endroit magique, magnifique, qui me paraissait être un lieu un peu exceptionnel de confidence. C'est là où Julia va avec le photographe qui s'appelle Thomas. Et c'est là où ils ont des échanges par rapport à leur vie. Elle a perdu sa mère, lui a perdu son compagnon. Et donc c'est un endroit un peu mythique et peut-être, comme c'est la première partie du roman, une manière d'introduire tous les personnages en fait du roman. Idylle, la deuxième partie, c'est le réveil du volcan, on pourrait dire, avec cette idée... que tout ce qui nous semblait un peu inquiétant, un peu menaçant, va prendre réellement la tournure de ça. Et la troisième partie, Tefra, c'est les cendres. Et on est sur... Alors les cendres, faut le voir comme quelque chose qui ne dure pas. C'est-à-dire, très souvent, d'ailleurs, dans l'histoire de Stromboli, quand Stromboli a été recouvert de cendres, par la suite des jets de pierres, de flammes, de tout ce qu'on veut, les cendres sont balayées très vite, et elles disparaissent quasiment en 24 ou 48 heures. Après, on affrète des bateaux, on fait partir les touristes, on fait partir les habitants de l'île, à condition qu'il n'y ait pas de réplique, évidemment, du volcan. Dans le roman, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une seule, mais qui sera quand même assez tragique pour deux personnages. Et ensuite, les cendres, voilà, c'est ce bal des cendres, ça dit bien le côté de la tournure. Strongyle, qui est le nom de l'hôtel, veut dire la ronde. C'était un nom qu'on donnait autrefois à l'île aussi. Il y a l'idée de cette danse autour du volcan et des cendres qui ne resteront pas.
Danser autour du volcan, il y a beaucoup de symboles dans cette expression.
Oui, tout à fait. Et ça me plaît beaucoup parce que je trouve que j'ai essayé dans ce roman de mener une sorte de bal un peu virevoltant justement des personnages. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, le soir où j'ai escaladé le volcan, d'assister à ce qu'on appelle les bouches. Les bouches, c'est les sorties hein, du volcan, on pourrait dire, et les trois étaient réellement en action, et c'était un spectacle absolument magnifique. Et on a l'impression, en effet, on est à 200-250 mètres, hein, on n'est pas très loin de ces bouches, mais on est en hauteur, évidemment, et on a l'impression un peu de voir comme on est en avion et qu'on voit les villes du haut du ciel, où vous avez l'impression de voir une espèce de dessin de lumière. Ça donne un peu cette idée-là une fois que les bouches s'arrêtent.
Bien, je crois que vous aurez donné envie aux auditeurs de découvrir ce magnifique roman, Le bal des cendres, publié aux éditions Plon. Merci Gilles Paris d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci Loïc.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.